Normal sans âge, juste l'éveil, j'entrends en refuge, par les bienfaits. Je m'éveille pour les vivants, mon âme normal sans juste aller, j'entre en refuge, m'aller bien des dons et vers le j'aime pour tous les vivants. Normal sans âge, juste aller, j'entre en refuge. Par les bienfaits des dons et vers que j'aimais les vivants. Nous avons ces derniers jours vu comment conduire la récitation du mantra. J'ai mis l'accent sur la continuité des enseignements avec le mantra comme rappel, le mantra comme protection du mental, le mantra comme source d'inspiration. Aujourd'hui, je voudrais que nous voyions ce qui se nomme le samadhi omniprésent, qui est la principale pratique durant, pendant la récitation du mantra. Et nous verrons aussi une autre pratique particulière de récitation. Donc, deux pratiques principales pendant la récitation du mantra. Et en premier, celle qui est la plus essentielle, le samadhi omniprésent, kakyab tinedzin. Vous êtes familier maintenant avec la structure du sadhana. Vous avez entendu les dhampasum. Vous avez l'introduction, le principal, la conclusion. Refuge bodhicitta comme orientation et motivation. Dans le principal, phase de génération, phase de perfection, puis la conclusion, dédicace et souhait. Donc, dans la partie principale du sadhana, Il y a une consécration de soi comme étant Chenrezig. Chenrezig au sommet de notre tête, présence éveillée qui descend en nous et qui vient habiter le calice de lumière en notre cœur, lotus à six pétales, avec Ri Om Mani Padme Hum. Et nous-mêmes étant Chenrezig. Dans ce processus, l'on entre en présence de Chenrezig, l'on entre en l'état de Chenrezig. Je vous avais dit au début, Chenrezig n'est pas une personne au sens de quelqu'un dans un ailleurs, fût-ce une sorte de paradis surnaturel, mais Chenrezig est un état, l'état d'immense compassion, d'immense bonté, Tujie Chenpo. Et donc, dans cette première partie du sadhana, l'on entre en la présence de Chenrezig, c'est-à-dire que l'on entre en son état. On invoque son état en nous et on l'anime en le rend vivant en soi. Et c'est là que commence le samadhi omniprésent. Chenrezig, l'état d'éveil de Chenrezig n'est pas dans un ailleurs, n'est pas dans un ailleurs où que ce soit, mais est dans le présent, l'instantanéité présente. Et c'est en ce sens qu'il est omniprésent. La notion d'omniprésence est une notion extrêmement profonde. C'est même, pourrait-on dire, la plus profonde qui soit. L'omniprésence absolue ou l'absolu omniprésent. Et, soit dit en passant, absolu et omniprésence sont en quelque sorte des synonymes. Donc nous sommes Chenrezig et le monde est le monde de Chenrezig. Le sadhana exprime cela en parlant du monde comme étant Dewachen, c'est-à-dire le domaine de Chenrezig, et nous-mêmes comme étant Chenrezig. Et il est une imbrication. Et certaines fois, l'on dit que dans chaque pore de la peau de Chenrezig est un monde contenant une infinité de bodhisattvas et d'aspect de Chenrezig. Il y a une imbrication d'atomes univers dans l'omniprésence. Mais ce n'est pas le propos ici. Le samadhi universel ou omniprésent commence après la prière. Il est dit, je lis le sadhana, du corps du noble émane de la lumière. Le corps de Chenrezig. Mais ce corps de Chenrezig est aussi bien mon corps que le corps de l'environnement. Et cette lumière qui émane, cette lumière qui diffuse, dissipe les apparences karmiques impures. Ou cette lumière dissipe l'obscurité, les projections illusoires. Il y a une solution des apparences karmiques impures qui s'opère dans cette lumière. Une solution, une dissolution des illusions et toutes les expériences illusoires. Et c'est alors que libéré de ce que l'on nomme les illusions adventices, les illusions de la saisie duelle, le monde apparaît dans sa dimension pure, comme le domaine de félicité, le domaine même de Chenrezig, et tous les vivants, en corps, parole, esprit, sont les corps, parole, esprit de Chenrezig. Et si vous vous souvenez, nous avons déjà discuté cela d'une façon très simple, comme de voir l'autre comme Chenrezig, plutôt que de voir l'autre dans notre projection habituelle, avec nos préconceptions, préjugés, et de se connecter à l'autre dans sa pureté, ou connecté à sa pureté comme Chenrezig. C'était une façon d'établir un lien de cœur à cœur, de Bouddha à Bouddha, comme on dit. Et ceci est la dimension relationnelle et relative de la pratique à ce point. Le vers suivant dit « inséparable des apparences, sonorités et cognitions vides ». C'est là que l'on entre dans la dimension intérieure du samadhi omniprésent. Les corps, paroles, esprits de tous les vivants, qui sont les corps, paroles, esprits de Chenrezig, sont inséparables des apparences, sonorités et cognitions vides. Ou, dit autrement, la présence de tous les vivants et la présence, pour ce faire, de toute expérience est apparence, sonorité, cognition vide, apparence vide, sonorité vide, cognition vide. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? une apparence vide. On sait ce qu'est une apparence, mais vide, et vide de quoi? Une apparence vide est une apparence vide de saisie. Vide du processus de la conscience habituelle qui saisit les choses en les réifiant, en les solidifiant. En leur donnant, en les réifiant. Une apparence vide dans l'expérience s'évoque en disant que c'est une apparence qui est comme un rêve. Apparent et pourtant vide, vide et pourtant apparent. Où on utilise, il y a dans la Prajna Paramita de nombreux exemples ainsi d'illusions. Une apparence vide est une apparence qui n'a pas la réalité qu'on aurait tendance à lui attribuer. On dit que c'est aussi une apparence qui est comme un arc-en-ciel, comme comme un mirage, comme une hallucination. Mais l'exemple le plus commun et le plus parlant, ou le plus facile, je pense, c'est comme un rêve. On peut se rappeler ici l'exemple du rêve que vous connaissez tous, je pense, et qui nous fait sentir comment ce que l'on vit dans le rêve est une projection de notre esprit, une fabrication de celui-ci, et est apparent, mais n'est pas véritablement réel. Apparence vide, c'est aussi, dans une certaine mesure, vide de réalité. Vide d'une certaine réalité. Le point ici est de s'entraîner à vivre les apparences dans cette qualité de vide, de saisie, sans saisie. C'est ce que nous dit Go Rinpoche dans la prière d'autolibération que nous chantons tous les soirs. On peut en chanter la première stance et écoutez bien ce qu'elle dit.
Ici tout ce qui est apparent comme des objets de la vision, toutes les choses externes ou internes, habita et tous ses habitants, bien qu'elles apparaissent ainsi, reste en l'état de la non-saisie, pure d'un don de saisie duel, clarté vide et corne d'idée. Ô maître, j'adresse la prière, qu'apparent vide s'auto-limer.
Merci, Go Rinpoche. Donc, cette stance exprime parfaitement ce dont il s'agit. Et toutes les apparences externes ou internes, ça veut dire du monde ou des habitats, habitants. Habitat externe, habitant interne. Contenant, contenu. Donc, toutes ces apparences, bien qu'elles soient comme elles sont, de ne pas les saisir ou de pouvoir se dessaisir, les dessaisir. Et dans la dessaisir, leur clarté apparaît, une clarté sans saisie. Et corps de déité, le corps de Chenrezig, justement, ce que dit le sadhana. Donc, cette apparence vide se découvre et se cultive dans l'état d'ouverture, que l'on a déjà découvert et cultivé avec la vision panoramique. Et l'absence de saisie étant aussi cette qualité d'observation simple et neutre, abstraite, la nue vision de l'observateur abstrait. La nue vision. Ensuite, il y a les sons vides. Toutes les sonorités, toutes les résonances sonnent, mais là aussi, sans que l'on saisisse ces sons, vides de saisie. Un exemple que l'on donne est, certaines fois on dit, comme un écho. Voilà. Ou comme une langue dont on ne connaît pas le sens. Il y a un bruit, mais qui ne nous interpelle pas et que l'on ne saisit pas, et qui est que l'on entend sans écouter, une simple entente. Pour dire le son vide, nous pourrions aussi, encore donner la parole à Guru Rinpoche, avec la deuxième stance de la prière d'autolibération. Tout ce qui est entendu comme des objets de l'audition, tous les sons plaisants ou déplaisants, alors qu'il sonne comme son vie, demeure en cet état indicible, sans naissance ni fin le son, ni la parole des minorieux, au maître j'adresse la prière, de le son vide, holy. petit peu plus difficile, celle-ci. Le son vide et le son qui est entendu par ce même observateur abstrait ou observateur absent. Quand l'observateur s'est suspendu, cette qualité de présence d'absence en laquelle s'entend le son vide, qui est vide de sujet auditeur et qui est vide de sujet répondeur. Et l'exemple aussi du son vide que l'on donne est comme le mantra Om Mani Padme Hum, qui est une sonorité, mais qui est d'une certaine façon, n'a pas de sens précis, même si, et nous l'avons vu, il peut y avoir un sens profond, mais on n'est pas en train de mentaliser le sens du mantra lorsque l'on l'énonce. Et donc, toute sonorité est comme le bruissement ou la résonance ainsi du mantra, ou simplement pur son vide, comme nous disions. Et troisièmement, cognition vide, l'esprit de Chenrezig. Cognition vide, alors, par cognition, on entend simplement ce que l'on peut expérimenter dans son esprit, les pensées, les émotions, les toutes les émergences, tout ce qui émerge dans le mental. Et vide, là aussi, vide de saisie, c'est-à-dire vide aussi d'interaction, d'interférence, de fabrication, d'artifice. Le vide, que ce soit pour les apparences, pour les sonorités ou pour les cognitions, c'est vide de soi. Vide de moi. Et pour préciser cela, nous donnons de nouveau la parole à Guru Rinpoche.
Comme les objets du sens interne, toutes les conceptions qui émergent, comme les saints poisons des passions, n'invite ni ne les suit, n'entre pas en l'agir du mandal. Le mouvement laissé en lui-même est libéré en dharmagaya. Au maître j'adresse la prière, car Punition soto limber.
Tout ce qui émerge dans l'esprit, dans le mental, toutes les conceptions et tout ce qui peut exister comme émotion des cinq poisons, donc toute pensée, toute conception, toute émotion, ne les invite ni ne les suit, ne va pas à leur devant et ne les fuit pas. N'entre pas en l'agir du mental. Ce qui veut dire ne fais rien. Tu ne vas pas les chercher, ne vas pas les suivre et ne fabrique rien. Pas d'artifice, pas de fabrication. Et pour ne rien faire, quelle est la meilleure stratégie? Et quand est-on sûr de ne rien faire? On ne fait rien quand on n'est pas là. J'étais pas là, j'ai rien fait. C'est l'alibi. Donc, le non-agir du mental, c'est l'acteur absent, l'acteur suspendu. Donc, voilà le... Samadhi omniprésent qui est dans l'expérience de la dimension pure du corps, de la parole et de l'esprit de Chenrezig comme apparence vide, sonorité vide et cognition vide qui se disent aussi comme les trois dimensions de l'expérience éveillée, Nirmanakaya, Sambhogakaya et Dharmakaya. Dans le samadhi omniprésent consiste à vivre cette présence d'absence, cette présence vide dans les apparences, les sonorités et les pensées. Et le samadhi, expérimentant le sens de ce qui vient d'être dit, réciter les six syllabes. Om mani padme hum. Donc, voici c'est le cœur de la pratique. Quelle heure est-il? Donc, nous allons voir maintenant la deuxième forme de pratique pendant la récitation du mantra. Et vous l'avez dans vos textes de pratique, cela se nomme la représentation pour la phase de récitation. C'est un addenda à la pratique de Tonton Gyalpo qui a été composé par un Jamlen Controller de Taillet. Et il nous dit, contempler en l'expérience décrite précédemment, tout en récitant les six syllabes, est la pratique principale du yoga universel. C'est le yoga universel qui constitue la pratique principale. Donc, contempler apparence vide, sonorité vide, cognition vide, comme il fut dit précédemment, tout en récitant les six lettres, et le yoga universel ou le yoga omniprésent, et c'est la pratique principale. Ensuite, après cette pratique principale, entrer en Dzogchen et l'enseignement source. Néanmoins, si l'on souhaite adjoindre, comme cela se fait couramment, une représentation de récitation qui soit conforme à la transmission de la lignée des renonçants, la lignée des renonçants, c'est la lignée des yogis, donc conformément à la tradition yogique, il y a une autre pratique qui se fait pendant la récitation qui est associée à ce que l'on nomme un Chodu. Chodu, c'est du tibétain. Cho signifie émanation et du signifie résorption. Un Chodu, c'est une pulsation. Émanation, déploiement et ensuite résorption. À ce moment-là, nous sommes Chenrezig et là on reprend du haut de nos têtes, le Seigneur des êtres fond en moi et autrui. Donc, c'est ce qui a déjà eu lieu précédemment. En le cœur, en notre cœur, un lotus blanc, calice de lumière, un lotus blanc à six pétales, avec au centre Ri, ou un grain de lumière blanche qui vibre de la sonorité Ri, qui est la syllabe germe, la quintessence de Chenrezig. Et face à cette lettre Ri, il y a les syllabes du mantra qui sont écrites Detstror Sum. Detstror Sum, cela veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre, dans une circumambulation droite. Donc, il y a au centre le Ri, et puis Om, Ma, Ni, Pe, Me, Hong. Le Ri là, et le Om fait face au Ri, Om, Ma, Ni, là je suis en Pe, Me, et Hong. Vous avez le dessin dans le livre. Hein. Vous avez le dessin dans le livre. Et ceci est dans notre cœur. Et ce qui est important ici est d'avoir cette présence dans son cœur, cette présence de lumière, le calice de lumière, au centre, le grain de lumière blanc qui est Ri. Et autour des grains de lumière de six couleurs qui correspondent aux six lettres. Om est blanc, Ma est vert, Ni est jaune, Pe est bleu, Me est rouge et Hong est bleu nuit. Tout ça, c'est dans le livre. Ça n'est pas ici les détails qui sont les plus importants, mais c'est d'avoir cette présence qui est celle de Chenrezig, d'avoir cette présence d'immense bonté en son cœur, que son cœur soit habité de l'immense bonté qu'est Chenrezig. Donc, que Chenrezig habite en notre cœur, que que notre cœur soit habité de l'immense bonté. Et c'est notre cœur, le cœur de Chenrezi, le cœur d'immense bonté, rayonne. Et c'est là l'émission, le cho, la diffusion. Donc, rayonne une luminosité blanche, mais aussi quinticolore, teintée des cinq nuances. Et cette luminosité qui est diffuse amène, alors dissipe toutes les illusions, le karma impur, les passions, passions et illusions, et révèle les qualités éveillées. Donc, elle a, le texte dit « Le ray dissipe les nuisances et les voiles. » Et cette lumière amène l'éveil à tous les vivants, fait naître en tout vivant les deux bodhicitta, éveille en tout un chacun les deux dimensions de bodhicitta. Donc, il y a cette purification et cet éveil de qualité. Puis, deuxième temps, la lumière revient en sa source, revient en notre cœur, avec toutes ces qualités de bodhicitta, d'éveil, toutes les qualités éveillées, et revenant, ils, ce sont les raies de lumière. Hein. Ils consacrent alors, nos existences ou mon existence. Peut-être qu'en français, ça se passe pour tous les vivants, mais ça se vit à partir de soi. Et donc, l'important ici est que cette lumière nous consacre, nous éveille, et éveille en nous la présence de ces qualités. Donc, il y a un rayonnement et la réabsorption qui amplifie les qualités. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux dans lequel il y a un don de qualité, de bienfait, d'éveil, et celui-ci, revenant, nous consacre et éveille en nous ces qualités éveillées, bodhicitta, et consacre nos existences, c'est-à-dire nos corps, paroles, esprits, et les consacre dans la présence de Chenrezi, qui est aussi apparence, sonorité et intelligence vide. Donc, cette pratique de le Chodu a beaucoup de variations. Elle peut se faire comme je viens de la décrire. Elle peut se faire aussi avec la couleur et les qualités de chacune des six lettres. Chacune des six lettres étant associée à un loka, c'est-à-dire à un monde émotionnel. Le homme correspondant à l'orgueil, ma à la jalousie, ni au désir, paix à la stupidité, mais à l'avidité et rong à la colère. Toute cette correspondance se trouve aussi dans le grand tableau que vous avez dans le livre. Mais donc, il est possible, d'une façon générale, en s'y entraînant, de cibler en quelque sorte ces émotions particulières et aussi, suivant les circonstances, de pratiquer avec des événements, des personnes, des circonstances connectées à ces six émotions, connectées au six loka, au six mondes. À ce point, y a-t-il sur ces deux pratiques des remarques ou des questions? S'il vous plaît.
Si toute apparence est illusion et vide de substance, si toute cognition, donc la métacognition aussi est vide de substance, qui rayonne, qui est là pour rayonner, pour rentrer dans ce processus.
Quand on fait le...
Parce que ça revient à dire, finalement, on est soi-même tel qu'on se conçoit, on est aussi vide de substance, enfin on est...
Et vide de substance et vide de soi, vide d'ego, nous sommes, devinez qui ? Chen Rezi. Dans, si vous voulez avoir, être quelqu'un, quelqu'une, c'est Chen Rezi. Mais Chen Rezi n'est pas quelqu'un au sens duel habituel. Chen Rezi est la personne authentique. La personne authentique est la personne qui est vide de soi. Mais ne compliquons pas. Hein. Et on se vit comme Chen Rezi à ce moment-là. Immense bonté. Immense bonté est le nom de Chen Rezi.
Bonsoir Rinpoche. J'ai une question par rapport à l'état de non-saisie.
Ouais.
En fait, un tout petit enfant qui n'a pas encore appris à parler, il expérimente le monde en quelque sorte sans en saisir. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est, qu'il est dans un état éveillé.
Oui.
Qu'est-ce qui différencie ces deux états ?
D'abord, le petit enfant n'est pas vraiment sans saisie. Il y a au départ une sorte d'appui sur le présent. C'est vrai qu'il il n'est pas dans la conceptualisation, il n'est pas dans le langage parlé, mais il y a une forme de... il habite sur le présent et il établit une première connexion avec la mer, le sein de la mer ou la face de la mer. Et donc, il n'est pas dans un véritable état de non-saisie. Et la grande différence aussi, c'est que nous, nous avons, adultes, tout ce qui nous constitue dans notre humanité pensante, dans notre mental d'adulte. Ce que n'a pas le petit enfant. Et le mental n'est pas quelque chose, le mental adulte n'est pas quelque chose à renier ou à éliminer, mais quelque chose qu'il s'agit, dans la non-saisie, d'expérimenter sans être illusionné, sans s'illusionner dans sa conception.
Merci, Rinpoche.
Merci. Donc, je voulais une précision, c'est pendant la récitation du mantra, soit on est dans cette espèce d'absence toute ouverte.
De présence toute ouverte.
Oui, mais si c'est une présence d'absence, il y a quelque chose qui est assez...
Oui.
Voilà. Et donc, soit dans cet état-là, soit on imagine le... Enfin, on alterne.
Oui.
C'est pas simultané.
Alors, il peut y avoir des simultanéités. Ça n'est pas proprement parlé exclusif, mais il y a deux...
Deux temps.
Apparence, sonorité, cognition vide, et ce que l'on nomme habituellement la triple intégration, tierso sum, les trois, l'intégration de tout ce qui est forme, de tout ce qui est son et de tout ce qui est pensée. Et ça, c'est une pratique fondamentale, une pratique en soi, et d'un autre côté, il y a cette pratique de récitation avec cette dimension qui est plus relationnelle ou interactive.
Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va le voir après. Moi, j'avais en mémoire qu'on pouvait aussi visualiser des détails.
Il y a beaucoup d'autres aspects de la pratique qui peuvent être faits. Il y en a au moins une bonne dizaine. Vous pourrez regarder dans le livre. Mais ces deux sont les principales.
Merci.
Moi, j'aurais voulu savoir le lien entre Chenrezig et Sukhavati, particulièrement par rapport au souhait de Sukhavati qu'on récite à la fin de la pratique.
Sukhavati, ou c'est du sanskrit, un mot sanskrit qui se dit Dewachen en tibétain, Sukhavati est le domaine de Chenrezig. Alors, cette notion de domaine est importante. On peut dire l'habitat. L'habitat dont Chenrezig est l'habitant. Et il y a là une idée très moderne qui est que l'habitat et l'habitant ne sont pas séparables et sont interdépendants. Tout comme un animal et sa niche écologique, ou son écosystème. Habitat, habitant. Et tout comme moi et mon monde, moi et le monde de mes projections, tout comme contenant et contenu. Donc, il y a cette interdépendance, et partout où est Chenrezig, se vit Dewachen, conséquemment. Et Dewachen est le monde que vit Chenrezig.
Pour préciser, moi dans le souhait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec la mort, en fait, qui est après la mort, du coup, le Sukhavati.
Tout à fait. Et en faisant le souhait de Sukhavati, on génère une orientation d'esprit, on met en œuvre une motivation, une orientation, on anime une motivation et une orientation de notre esprit, de notre conscience, qui oriente celle-ci, au moment de la mort, vers cet état qu'est Sukhavati. Et c'est ainsi que l'on exprime cela en disant que par la force de cette aspiration, l'on naît en Sukhavati, l'on naît en présence d'Amitabha et de Chenrezi. L'on naît en présence de lumière infinie et de sa qualité d'immense bonté que Chenrezi. Et c'est une pratique remarquable pour trouver la délivrance au moment de la mort.
Rinpoche, il y a une question d'une personne online, Mode, qui se demande si les six syllabes du mantra tournent dans notre cœur ou si elles sont fixes.
Il y a différentes versions. Et je sais, l'autre jour, Wanchan Rinpoche a exprimé une version dynamique. Ici, présentement, c'est une version statique. Donc, les syllabes sont inscrites, comme je le décrivais tout à l'heure, d'extror sum, et elles sont stables.
Il y a une deuxième question de Sherab, et je vais la lire. Donc, peut-on dire que les deux principales manières de vivre la récitation sont l'une présence d'absence, plus animée par prajna, et l'autre par karuna, représentation de la récitation?
Ce peut être une façon, effectivement, de voir les deux méditation, il y en a une qui est plus dans l'ouverture, la dessaisie, et qui pourrait être effectivement plus prajna, intelligence, et l'autre qui est plus relationnelle, dans l'empathie, la compassion, la bienveillance, la bonté, karuna. Oui, s'il y a une nuance qui peut être faite ainsi entre les deux, c'est très bien.
Merci Rinpoche.
Bonsoir Rinpoche. Vous évoquiez que, donc, vide de soi, nous sommes Chenrezi, cette énergie d'amour omniprésente, donc, présente chez tous les êtres. En CNV, en communication non violente, il est dit que justement cette énergie d'amour s'exprime chez les êtres, s'exprime par différents besoins fondamentaux qui sont communs justement à tous, voilà, tels que l'amour, la célébration, même de se nourrir. Ce qui permet en fait, connaissant ces types de besoins fondamentaux, il est beaucoup plus facile d'y répondre chez soi et chez les êtres. Est-ce que le bouddhisme parle de justement cette forme-là, de cette expression d'amour? Merci.
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Parce que vous me dites que l'énergie d'amour s'exprime comme besoins fondamentaux.
Oui.
Redites-le, s'il vous plaît. Redites-le-moi-le.
Que justement, cette énergie d'amour,
oui,
elle s'exprime par le fait qu'on a tous des besoins. On va avoir des besoins d'amour, des besoins de célébration, même pour se nourrir, tout simplement. C'est donc qui nous pousse à bouger, qui nous pousse à agir.
il y a une, il y a différents niveaux. Si cette énergie d'amour est dans l'absence de soi, de quoi et comment ce soi absent a-t-il des besoins?
Plus par une différenciation par rapport aux désirs, hein, effectivement, qui sont là, l'ego a ces désirs-là, mais en plus des besoins fondamentaux qu'on a tous, en fait.
Je pense que le problème, c'est que vous faites des correspondances avec la CNV ou des choses qui ne me semblent pas forcément pertinentes. Mais en sortant de ces cadres de référence, l'énergie d'amour, l'énergie de compassion, de Chenrezig, Mani Padme, le joyau de la compassion, le joyau de l'amour dans le lotus de l'ouverture, a une expression dynamique qui est celle des cinq gnoses, des cinq dimensions de l'expérience immédiate et non duelle, celle que nous décrivions, c'était l'autre jour. Donc, ça n'est pas un état inerte et inopérant, bien au contraire, c'est l'état dans lequel se trouve la perfection de l'action éveillée, mais sur un mode spontané et non conceptuel.
Donc finalement une énergie participative qui répond à ce que requiert la situation dans l'instantané.
Ce serait une bonne façon de le dire, une énergie participative, auto-adaptative ou spontanément en harmonie avec la réalité de l'instant présent.
Merci.
Djelma, vous avez demandé la parole, et puis vous le... Mais Djelma est la porte-parole de tous nos amis internautes, donc elle a une petite priorité, mais je vous passe la parole après.
Alors, deux nouvelles questions. Une question de Senam qui se demande si Sukhavati est un domaine au même sens que celui des enfers.
Sukhavati est un domaine éveillé, alors que les enfers ou les silokas du samsara sont des domaines de dualité, sont des domaines de conscience duelle et passionnelle, sont des domaines de souffrance et d'illusion, alors que Sukhavati est un domaine d'éveil, de liberté, de bonheur. Mais la notion de domaine peut s'appliquer dans les deux cas. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout le même type de domaine.
Et donc la deuxième question de Sylvie de Toulouse, qui dit « Vide de soi, je suis Chenrezig. Est-ce que « je » qui renaît dans le bouddhisme parle de renaissance ? Est-ce que ce « je » oui, c'est ça. Est-ce que ce « je » qui renaît, est-ce que c'est ce « je » qui renaît quand le bouddhiste, du coup, je pense, parle de renaissance ? Le « je » vide de soi ?
Il y a des difficultés, mais le jeu vide de soi, ça n'est pas, c'est pas l'expression que j'employais exactement tout à l'heure. Ça voudrait dire jeu vide de jeu. Alors, jeu vide de jeu, c'est non-jeu, il n'y a pas de jeu. Et jeu n'existe que comme illusion, sur un mode illusoire. Et ce qui renaît est effectivement une illusion. En ce sens.
Merci.
Mais là, c'est des francophones, là. Et la baleine loup, tu traduis en anglais. S'il vous plaît.
Oui, merci. Je voulais revenir sur les souhaits de Sukhavati. Donc, ça commence en invoquant donc, le merveilleux Bouddha de lumière infinie. Donc, si j'ai bien compris, on parle d'Amitabha.
Oui.
À sa droite, le seigneur de grand amour, donc c'est Chenrezi.
Oui.
Et ensuite, à sa gauche, le vaillant au grand pouvoir. Qui est ce vaillant au grand pouvoir ?
Vajrapani. Ah. Vajrapani, c'est le bodhisattva qui tient dans sa main le Vajra. C'est son nom, Vajrapani. Et il est l'expression justement il est le détenteur du pouvoir Vajra, il est le détenteur de la force adamantine. Et les trois sont représentent pour respectivement Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya. Lumière infinie, omniprésente, Amitabha, Dharmakaya. Sa nature d'immense bonté et de grand amour, Chenrezi, Sambhogakaya, et la manifestation de ses qualités dans les pouvoirs éveillés, Vajrapani, Nirmanakaya.
Merci à Bogé.
Rinpoche, s'il vous plaît, j'avais une question. Comment ressentir l'immense bonté en son cœur ? Est-ce que c'est une sensation qui se rapproche de celle qu'on ressent en présence de personnes qu'on aime ? Et si oui, comment la différencier de l'amour que l'on vit tous les jours, qui est souvent empreint d'attachement ?
Il y a un amour de participation, un amour d'union, un amour de non-dualité que l'on peut expérimenter plus ou moins en présence d'êtres chers. Mais sur cet amour de participation, cet amour d'empathie, cet amour de compassion authentique, vient se greffer une possession, une saisie, un attachement qui s'approprie ou fait sien l'aimer. Et c'est là l'attachement qui parasite et qui pollue l'amour authentique, l'amour véritable.
Et au niveau de vraiment de la sensation, dans ce cas, c'est la même, mais sans saisie.
C'est pas la même. Oui, enfin, c'est... Mais c'est justement pas la même, suivant il y a ou pas de saisie. Bien. Un petit moment de pratique. Montrez-moi la pendule, s'il vous plaît. Nous allons faire une petite pause, une pause manie, une petite manifestation. Façon de manifester un peu d'éveil. Mani peme hongo, 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 mani peme hongo.
Money, 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 money
Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Absolutely.